Radio Okapi.
Le journal Mimi Ngumba Mulongo.
Okapi.
Les signataires de l'accord cadre reconnaissent l'efficacité et l'importance de celui-ci pour le retour d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Ils l'ont fait savoir ce vendredi à l'issue de la troisième réunion du mécanisme régional des suivis de cet accord à Addis Abeba en Éthiopie. Aussi, plusieurs recommandations formulées, notamment dans le domaine judiciaire. Probable levée de la suspension de la RDC par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives internationales. Le rapport exigé pour cette fin a été non seulement publié, mais aussi dans le délai. C'est ce que nous dira dans ce journal, avec beaucoup plus de détails, le coordonnateur de l'ITIE RDC. Médecins du Monde annonce la fin de la première phase de la prise en charge de PVV pour fin 2014. Et pour cause, la réduction des ressources financières due à la réticence des bailleurs des fonds internationaux. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs reste un mécanisme effectif et viable pour la réalisation d'une paix et d'une stabilité durable en RDC et dans la région. C'est ce qu'affirment les signataires du dit accord. Ils l'ont dit à l'issue de la troisième réunion du mécanisme régional de suivi tenue hier vendredi à Addis Abeba en marge du 22e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette réunion a été organisée conjointement par la présidente de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire général des Nations unies, représenté au sommet par son adjoint Jan Allison. Mila Kimbuni pour plus de détails.
Dans leur déclaration finale, les participants à cette réunion renouvellent leur engagement pour la mise en œuvre de cet accord, tout en réaffirmant leur attachement à la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tous les pays de la région. Ils approuvent le plan d'action pour la mise en œuvre des engagements régionaux pris au titre de l'accord cadre et félicitent le comité d'appui technique pour l'élaboration de ce plan. Ils s'engagent à continuer à mener des efforts concertés à travers une approche multidimensionnelle pour la mise en œuvre de la cadre, y compris par le biais d'un dialogue politique large sur des sujets d'intérêt commun. Cette déclaration met aussi l'accent sur le soutien que les participants accordent aux initiatives de développement, particulièrement celles en faveur des femmes et des jeunes. Ainsi, ils approuvent l'initiative de Mary Robinson d'organiser avec la CIRGL un forum sur l'investissement du secteur privé. Enfin, les participants saluent le lancement par Mary Robinson de la plateforme des femmes pour l'accord cadre afin de combattre les violences faites aux femmes et de promouvoir les moyens de subsistance durable et les efforts de développement dans la région.
Ce même sommet d'Addis Abeba a aussi adopté au cours de sa séance à huis clos hier vendredi un certain nombre de résolutions. Celles-ci portent entre autres sur des questions relatives au protocole relatif à la Cour africaine des justices et des droits de l'homme, le rapport de la Conférence internationale sur la santé des mères et des enfants en Afrique, la demande de report de la RIP de la présentation du président kényan devant la CPI et les relations du continent avec cette cour. Le sommet a aussi nommé 10 nouveaux membres au Conseil de paix africain pour un mandat de 2 ans. L'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE salue l'apport du gouvernement congolais, des entreprises extractives ainsi que de la société civile dans l'élaboration de son rapport 2011 publié ce 31 décembre, comme l'a exigé l'ITIE international avant de lever la suspension de la RDC. Dans une interview accordée à Radio Okapi, le coordonnateur de l'ITIE RDC se félicite de progrès accomplis par la RDC en publiant ce rapport qui, selon lui, a connu le concours de toutes les parties prenantes et a répondu à toutes les exigences de l'ITIE international. Cependant, la publication du dit rapport n'implique pas automatiquement la levée de la suspension de la RDC à l'ITIE international, nous explique ici le professeur Mac Doumba. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Ce rapport contient énormément de renseignements. Nous avons connu une évolution vertigineuse entre le rapport 2010 et le rapport 2011. Nous avons atteint le chiffre vraiment magistral de 1,4 milliard de dollars des deux secteurs pétroliers et miniers. Et aussi, ce rapport contient un tableau des répartitions des paiements des entreprises. Il y avait 14 pays qui devraient publier leur rapport au 31. Il n'y a que 8. Et dans le 8, la République démocratique du Congo fait figure de proue en publiant son rapport qui est si éloquent comme je viens de le démontrer. Donc, la décision de lever la mesure sera prise après l'examen de ce rapport par le secrétariat international. Le conseil d'administration se réunira le 16, le 17 et le 18 mars à Oslo, au siège de l'ITE international, et prendra la décision en ce qui concerne la validation ou l'exclusion de la République démocratique du Congo.
Plus d'un milliard 140 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale a débloqué pour aider la Société nationale d'électricité à améliorer la qualité de son service à Kinshasa. Au cours d'une visite d'inspection des installations en cours de réhabilitation, grâce au financement de la Banque mondiale, le directeur de cette institution de Bretton Woods en RDC a déclaré que les fonds sont destinés à la réhabilitation des turbines à Inga, au renforcement des lignes de transport d'électricité, ainsi qu'au renouvellement du réseau des distributions à Kinshasa. Pour les directeurs de la Banque mondiale RDC, la mise en œuvre de ce projet d'électricité pour tous va suffisamment contribuer dans la lutte contre la pauvreté en RDC. On écoute donc Eustache Wayoro au micro de Michel Kifindangoy.
C'est un projet important, il faut le dire. On était dans le quartier Congo, dans la zone entre Makampagne et puis Kitambo. Et des personnes que nous avons rencontrées nous ont dit que ça faisait 45 ans qu'ils n'avaient pas eu d'électricité. Et ce projet permet à ces personnes d'avoir de l'électricité. Elles sont vraiment heureuses. Et la Banque mondiale intervient avec le gouvernement pour améliorer le social des Congolais. Ça, c'est vraiment la priorité de notre travail. Et nous sommes fiers de voir qu'il y a des progrès à ce niveau. C'est pas parfait. Il y a encore beaucoup à faire. Nous n'avons pas dit qu'avec 1 milliard 140 millions, nous allons régler tous les problèmes d'électricité de la RDC, ni de Kinshasa. Mais c'est un début. Et ce qui est important, c'est pas seulement les réalisations des infrastructures, mais c'est de faire en sorte que la SNEL soit une entreprise performante, pour qu'elle soit capable de mobiliser les ressources par elle-même et pouvoir faire le développement des infrastructures d'électricité et fournir des services aux populations. Donc c'est ce paquet-là, infrastructure, renforcement institutionnel, que nous soutenons et nous sommes satisfaits de l'avancée du programme. Mais il y a encore des choses à faire.
Autre chose à présent, les budgets exercice 2014 promulgués hier la nuit par le chef de l'État, une promulgation qui intervient après son vote par l'Assemblée nationale. Ces budgets exercice 2014 s'élèvent finalement à 8 273,4 milliards de francs congolais, soit près de 9 milliards de dollars américains. Notons que le vote à la Chambre basse du Parlement est intervenu après le réexamen de ce projet de loi à la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat. Une commission mise en place pour cause des divergences constatées après le vote de la loi des finances par les deux chambres en des termes divergents. Jacques-Yves Molima pour plus de détails.
La première divergence émanait des recettes améliorées par l'Assemblée nationale d'un montant de plus de 19 milliards de francs congolais relative à la vente d'une licence à Yozma au niveau du ministère des PT Antique. Après examen, il s'est avéré que, selon le ministre Nkinke Mulumba, ces recettes étaient déjà prises en compte dans les prévisions du gouvernement. La seconde divergence provenait de l'allocation par le Sénat d'un montant de plus de 7 milliards de francs congolais au ministère du Plan pour le recensement général de la population et de l'habitat. Après réexamen, les divergences ont été aplanies. D'une part, les recettes de Yozma étaient déjà prises en compte, il ne fallait donc plus en rajouter. D'autre part, l'octroi par le Sénat d'une allocation au bénéfice du ministère du Plan a été accepté, d'autant plus qu'il ne s'agissait que d'un aménagement entre les rubriques de dépenses. Tout compte fait, ce budget est présenté en équilibre en recettes comme en dépenses à 8 273,4 milliards de francs congolais.
Sachez aussi que le rapport relatif au projet de loi de l'amnistie sur les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques n'a pas pu être traité hier vendredi à la plénière de l'Assemblée nationale. Le président de cette chambre du Parlement, Aubin Minaku, a fait savoir que ce rapport, bien que rédigé, ne pouvait être mis en examen, d'autant plus que les travaux en commission se sont déroulés en l'absence d'un nombre important de ses membres. En effet, mercredi dernier, les députés de l'opposition, membres de cette commission, avaient claqué la porte pour exprimer leur désapprobation quant à la période que la loi d'amnistie devrait couvrir. Aubin Minaku a toutefois rassuré l'Assemblée que les pourparlers sont en cours pour aplanir les divergences afin de voter cette loi avant le 4 février prochain, date de la clôture de cette session extraordinaire. Et comme vous le savez, la loi sur l'amnistie adoptée déjà au Sénat examiné à la commission PAJ de l'Assemblée nationale, comme nous venons de le dire. Et donc, si cette loi est votée par la Chambre basse du Parlement, elle sera la troisième du genre que le président Joseph Kabila est appelé à promulguer depuis 13 ans qu'il est au pouvoir, outre les décrets-lois par lui signé en avril 2003, accordant une amnistie provisoire suite à l'accord global et inclusif. Mais quelles sont les particularités que présentent ces trois lois d'amnistie? Tentative de réponse avec Innocent Linga.
La première loi d'amnistie de 2005 est la résultante de l'accord global et inclusif de Salt City. Elle est accordée sur les faits de guerre et les infractions politiques et d'opinion. Elle couvre la période allant du 20 août 1996 au 30 juin 2005. La deuxième loi d'amnistie intervenue, elle, en 2009, est l'exigence des accords de Goma et ne concerne que les faits de guerre et les faits insurrectionnels commis au Nord Kivu et Sud Kivu entre juin 2003 et 7 mai 2009. Enfin, la troisième loi sous examen amnistie, elle, les faits de guerre et les infractions politiques. Les sénateurs qui l'ont déjà votée ont fixé la période de couverture entre le 1er juillet 2003 et le 20 décembre 2013, période que la majorité souhaite qu'elle soit remontée en 2009. Ce qui fâche l'opposition et l'a poussé à claquer la porte de la PAJ. Contrairement aux deux lois précédentes, la nouvelle loi sous examen n'accorde pas une amnistie collective. Elle exige aux bénéficiaires de s'engager personnellement par écrit sur l'honneur pour pouvoir l'obtenir.
Et pour rappel, cette troisième loi est l'émanation de l'accord cadre d'Addis Abeba et de pourparlers de Kampala, sans oublier les concertations nationales. L'ONG Médecins du Monde annonce l'arrêt de ses interventions au niveau de la prise en charge de personnes vivant avec le VIH pour fin 2014. Annonce faite jeudi dernier au gouverneur de province du Nord Kivu par la coordonnatrice générale de MDF, Madame Pascal Mungwa, indique que pour le moment, son organisation est en phase de transfert de compétences aux autorités sanitaires ainsi qu'aux acteurs de la société civile qui vont assurer la continuité de cette prise en charge. Selon le numéro 1 de MDF en RDC, son organisation fait face à la réduction des ressources financières suite à la réticence des bailleurs de fonds internationaux. Madame Pascal Mungwa, dans ses propos recueillis par Denise Loukesso.
La situation, c'est que depuis 2008, on doit faire face à une réduction des ressources internationales qui arrivent sur la RDC de façon globale par rapport au VIH, mais aussi de façon spécifique sur le Nord Kivu et sur la ville de Goma. L'idée, c'est de voir un petit peu comment on peut mieux travailler avec les acteurs étatiques au niveau du Nord Kivu pour dégager des ressources financières suffisantes pour pouvoir permettre un traitement continu et global des personnes qui vivent avec le VIH. Donc on espère que le gouverneur aura entendu notre appel et l'appel des personnes qui vivent avec le VIH avec nous pour mobiliser des fonds pour travailler avec eux. Nous, on est dans une phase de programme de transfert de compétences aux autorités sanitaires et aux acteurs de la société civile. Une première étape de ce transfert arrive fin 2014 où on devrait arrêter l'intervention de Médecins du Monde au niveau de la prise en charge directe des malades et ensuite fin 2015 où là on finalisera le programme dans son entièreté. Donc ça nous donne 2 ans pour travailler et réfléchir ensemble sur ces questions-là et voir comment on peut trouver des solutions adaptées à la situation du Nord Kivu pour les personnes qui vivent avec le VIH.
Et c'est la fin de ce journal.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.